RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Pour Paris, qui se vit en capitale artistique, c'est un feu d'artifice cette semaine. Alors, coup d'envoi de la Foire internationale d'art contemporain, ouverture de la Fondation Louis Vuitton. Et puis, réouverture du musée Picasso. « Donnez-moi un musée, je vous le remplirai », disait Pablo Picasso, géant du XXe siècle. Fermé il y a 5 ans pour travaux, secoué par des polémiques, et bien son musée rouvre enfin ses portes, là, après-demain. Place aux œuvres, dans un nouvel et superbe écrin. La polémique se referme, le musée s'ouvre. Sarah Tisser a pu le visiter en avant-première pendant ce qu'on appelle l'accrochage. Sarah, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son grand reportage.
Dernier préparatif, la semaine dernière, au musée Picasso à Paris. On ouvrait encore des caisses, on installait des vitrines et surtout, on accrochait ses œuvres à tous les étages. Un travail d'orfèvre orchestré par Anne Baldassari, ancienne présidente du musée, commissaire de son exposition inaugurale.
Les œuvres de Picasso sont une très grande puissance. Elles ont une force qui peut être quasiment destructrice par rapport à une autre œuvre. Donc, elles interfèrent les unes par rapport aux autres. Elles ont besoin de blanc, de temps d'arrêt, d'intervalle, de respiration. Et ce travail, eh bien, il est très précis. L'œuvre de Picasso, ce n'est pas du papier peint. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons. Et l'accent est plutôt mis sur le processus de travail, le passage d'un dessin à une peinture, à une grande sculpture, que d'avoir les chefs-d'œuvre. On est dans un accrochage mixte entre grands chefs-d'œuvre et logique de création.
Et des chefs-d'œuvre, il y en a. La flûte de Pan, deux femmes courant sur la plage, l'homme à la guitare, les femmes à leur toilette, les sculptures en tôle découpées. Experte reconnue de Pablo Picasso, Anne Baldassari a conçu 3 parcours dans le bâtiment à la découverte du grand maître. Au sous-sol, le visiteur pénètre dans l'intimité de l'artiste, on y évoque ses ateliers successifs. Au-dessus, 3 étages pour découvrir la collection permanente, des premières toiles du peintre andalou comme cette petite fille aux pieds nus réalisée en 1895 alors qu'il avait 14 ans, jusqu'à ses ultimes tableaux à 91 ans. Un voyage chronologique et thématique, coup de projecteur par exemple sur le thème de la guitare dans l'œuvre de Picasso, ou sur la corrida, les portraits féminins, ou encore cette salle des autoportraits.
Picasso lui-même, donc ce sont des autoportraits, endosse les principaux styles de son œuvre. Alors on commence ici, 1901, l'autoportrait bleu. Alors on a ce personnage émacié qui regarde le monde de manière tragique, avec ce bleu qui est la couleur manifeste des impressionnistes, des post-impressionnistes, la peinture de la révolution en art, de l'insurrection. Là, on le voit en 1906, un autoportrait nu. Il endosse là la problématique du primitivisme, de Gauguin, de l'art africain. Donc on est vraiment dans un moment où l'artiste décide de s'engager sur le fil périlleux de l'invention de l'art moderne. On voit qu'il y a un monde entre les deux.
Comme ces autoportraits, la collection invite au voyage à travers 70 ans de création. Tout y est, la période bleue de Picasso, sa période rose, l'influence de l'art africain, le cubisme, le surréalisme, la guerre, ses amours, les années pop. Et puis, tout en haut, sous les combles, une salle dédiée à Renoir, une autre à Matisse, des Cézanne, un Gauguin, un Modigliani, des tableaux, des sculptures d'art africain et océanien. C'est la collection personnelle de Pablo Picasso, ses œuvres acquises au fil des ans dont il s'entourait chez lui et qui l'inspiraient aussi. Nous sommes les héritiers de Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Matisse. Un peintre a toujours un père et une mère. Il ne sort pas du néant, disait Pablo Picasso. C'est ce que rappelle ce 3e parcours, une version à plus petite échelle de l'exposition Picasso et les maîtres qui avait connu un énorme succès en 2008 au Grand Palais. Anne Baldassari.
On a une présentation des pièces les plus importantes dans un dialogue avec des œuvres de Picasso. Ces vis-à-vis permettent de lire la relation de Picasso à ses pères, Cézanne, Gauguin, le douanier, à ses pairs PIRS, Matisse, Derain, Van Dongen, la période fauve, avec lesquels il échange des œuvres, etc. Et puis à des artistes plus jeunes, comme Miro, qui viennent demander à Picasso accueil, conseil, et Picasso va soit acheter, soit échanger des œuvres avec eux, soit en recevoir en don. Collection particulière de Picasso, qui a fait l'objet d'une donation selon le vœu de l'artiste après sa mort, et la clause de la donation spécifie bien une obligation de présentation. Or, faute d'espace, le musée n'était pas toujours respectueux de cette clause.
Car on voyait peu ses œuvres auparavant, ou alors noyées au milieu des créations de Picasso lui-même. Voilà maintenant le vœu de l'artiste respecté, elles auront un espace dédié, sous de belles poutres apparentes, des locaux transformés à la faveur des travaux. Ils servaient de bureaux pour l'administration dans la première version du musée Picasso. Petite remontée dans le temps, nous sommes en 1985 à la télévision française.
Parlons peinture maintenant, avec un nouveau musée à Paris et sans doute l'un des plus grands musées de peinture du monde. On l'attendait depuis des années, mais cette fois c'est fait. Le musée Picasso est inauguré aujourd'hui par le président Mitterrand.
C'est donc en 1985, 12 ans après la mort de Pablo Picasso, que son musée voit le jour à Paris, avec les œuvres que l'artiste refusait de vendre. Ses héritiers les ont données à l'État français afin de s'acquitter de leurs droits de succession. Il y aura une seconde dation à l'État en 1990, après la mort de Jacqueline Picasso, son épouse. Total, 5000 œuvres et chefs-d'œuvre, les siennes et celles des artistes, amis ou maîtres, qu'il admire. Ainsi que 200 000 pièces d'archives personnelles du peintre, des lettres et des photos par milliers, jusqu'aux cartes d'anniversaire ou bouts de papier, puisqu'il ne jetait rien. C'est incontestablement le plus grand musée dédié au maître, précise son fils Claude Picasso, qui gère l'héritage.
On pourrait dire que c'est le musée père. C'est celui qui a la plus grande collection, et puis celui qui a les œuvres les plus importantes. On a vraiment écumé ce qui était la succession de Picasso, récolté toutes les plus belles choses possibles. Et on les a mises ici, dans le musée à Paris. Il avait déjà fait don de beaucoup, beaucoup de choses à la ville de Barcelone. Il a aussi d'abord laissé en dépôt, en musée d'Antibes, tout ce qu'il y avait fait sur place. Mais à Barcelone, ce sont les choses de l'enfance. C'est très intéressant à étudier. Mais clairement, ce n'est pas déterminant comme partie de l'œuvre. Ce n'est pas ça qui a fait la révolution du XXe siècle.
À Paris, le musée Picasso s'installe à l'hôtel Salé, un hôtel particulier du XVIIe siècle, au cœur du Marais. Une bâtisse de caractère, comme celle où toute sa vie, Picasso a eu ses ateliers. De la rue des Grands Augustins, au château de Vauvenargues, en passant par la villa La Californie. Il y a ce grand escalier de pierre au décor sculpté de dieux et déesses, ces boiseries, moulures, les grandes salles de l'étage noble en enfilade sur le jardin, les voûtes du sous-sol. Laurent Lebon, l'actuel directeur du musée Picasso, dit avoir connu un choc esthétique quand en 1985, encore adolescent, il l'a visité pour la première fois.
Je me souviens très bien avoir passé les portes de l'hôtel Salé, comme beaucoup, puisque je crois qu'il y avait plus d'un million de visiteurs cette année-là. Et puis ce fut l'émerveillement, la magie d'un dialogue entre un hôtel particulier du Marais et cet extraordinaire ensemble de l'œuvre de Pablo Picasso. C'est un homme qui a aimé ce type de demeure, hein, les grandes demeures historiques. L'œuvre de Pablo Picasso dans un musée lambda, même s'il y en a des très beaux, avec une architecture un peu conventionnelle, c'est pas la même chose que l'œuvre de Pablo Picasso dans un monument historique. Incarné, j'allais dire.
Oui, mais voilà, après 25 ans d'exploitation, l'ensemble méritait un coup de jeune. D'où la fermeture du musée en 2009 pour travaux.
Vous avez la rançon du succès, c'est-à-dire plusieurs millions de visiteurs qui passent tous les jours. Donc vous avez des travaux simples. Hein. Puis on s'est aperçu que ce musée qui avait été très bien pensé, il avait d'ailleurs eu un prix en 1985, et ben là aussi, les conditions de sécurité, les conditions de climat, de protection d'incendie méritaient là aussi d'être visitées.
Il y avait eu un vol par exemple en 2009.
Tout musée malheureusement peut faire l'objet, on l'a vu encore récemment à Paris, de cette tentative. Il n'y avait pas des conditions de sécurité qui étaient mauvaises. Ce qui est hanté, c'est qu'on l'a amélioré. Voilà, donc aujourd'hui, on a un système de vidéosurveillance qui, à l'époque, dans les années 80, n'était pas mis en place, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Surtout, Vu la réputation mondiale du musée et le nombre de visiteurs, 400 000 par an, il était devenu bien trop exigu. En délocalisant les services administratifs et techniques dans deux bâtiments voisins, la surface réservée au public a doublé. À l'instant T, le musée pourra accueillir 700 visiteurs, deux fois plus qu'avant, avec une quarantaine de salles d'exposition, un vaste hall d'entrée tout neuf et lumineux, la lumière bien plus présente aujourd'hui. Un auditorium, un atelier pour les enfants et un café avec terrasse ont aussi été créés. C'est l'architecte Jean-François Baudin qui a réalisé les travaux. Philosophie de l'ensemble, simplifier le parcours, rendre la visite plus fluide, plus accessible à tous, sans pour autant faire table rase du passé.
Les législations ont beaucoup évolué, notamment pour l'accessibilité des personnes en état de handicap. Donc, on a simplifié certaines possibilités de déambulation. Mais ça faisait partie de notre programme. Il n'y a plus un parcours obligé. Les salles peuvent avoir leur indépendance. Mais je pense que pour les gens qui connaissaient ce musée, ils s'en apercevront pas. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, de traiter les parties classées avec le respect qu'on leur doit, mais avoir la même démarche vis-à-vis du travail de Roland Simonet, qui a transformé cet hôtel qui avait des vies multiples en musée Picasso. Et nous avons à la fois traité son œuvre en la restaurant comme si c'était un monument historique. Et puis après, dans les étages qui ont été ajoutés au projet, on était libre, c'était des choses nouvelles.
Et il aura fallu 5 ans pour en arriver là. 5 années pendant lesquelles le musée a défrayé la chronique. Il a été dit entre autres que les travaux traînaient en longueur, ce dont se défend l'architecte Jean-François Baudin.
Les travaux n'ont réellement commencé que fin 2011 et là, nous avons découvert des terres polluées parce que ce lieu a été occupé par des écoles d'art, par un bronzier, par une grande école d'ingénieurs. Donc en fait, dans les terres, on a retrouvé du mercure, Donc il y a une procédure assez longue pour l'enlever. Et le chantier a réellement commencé au premier trimestre 2012. La fin prévue était l'été 2013. Et à la rentrée 2012, on nous a demandé d'étudier le bâtiment qui permettrait de recevoir tous les équipements techniques. Donc en fait, il n'était pas question de rouvrir le musée avant que l'autre partie du projet soit faite.
Et puis les tensions se sont cristallisées autour d'Anne Baldassari. Entrée au musée, il y a plus de 20 ans, devenue directrice, c'est elle qui a organisé cette rénovation, qui a récolté les 2/3 des 52 millions d'euros nécessaires pour les travaux, en montant de grandes expositions Picasso ces dernières années. Accusée par une partie du personnel de malmener ses équipes, elle est révoquée il y a 5 mois par Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture. Laurent Lebon est nommé pour lui succéder et après 3 mois d'intenses efforts diplomatiques, il est convenu qu'Anne Baldassari réalisera tout de même l'accrochage inaugural des œuvres dans le musée. Soulagement pour l'intéressé et pour le fils du peintre, Claude Picasso, qui s'était dit scandalisé.
Anne Baldassari a fourni un travail de réflexion depuis de longues années de comment on allait faire ce nouveau musée. Il fallait développer une façon de penser, c'est ce qu'elle a fait. Par la suite, pour trouver des fonds, elle a créé des expositions qui ont voyagé, vous savez, à travers le monde. Et aujourd'hui, le musée ouvre grâce à tous ses efforts. Donc moi, j'aurais trouvé extrêmement désagréable qu'elle n'aille pas au bout de son travail.
Mais au-delà de cette exposition inaugurale, que le grand public découvrira donc après-demain, le musée Picasso se veut aussi plus vivant qu'il ne l'était auparavant. Émilie Bouvard, conservatrice.
Les musées ont beaucoup changé depuis les années 80. Maintenant, un musée, c'est un lieu qu'on conçoit beaucoup plus comme un lieu de vie. On a par exemple un vendredi par mois, un nocturne, qui commence d'abord par un dialogue entre un artiste contemporain, une conservatrice du musée et un théoricien de l'art autour de l'œuvre de Picasso. Donc c'est vraiment l'idée de provoquer une nouvelle lecture des œuvres de Picasso par des artistes parfois inattendus. On a aussi une programmation famille le samedi après-midi avec des activités. On a une programmation cinéma, des films ayant trait de près ou de loin à Picasso. Tout ceci vise à amener vers l'œuvre de Picasso. C'est-à-dire, il y a toujours eu des conférences et des activités pédagogiques, mais c'était un plus petit musée, en fait, avec une équipe plus réduite qui ne pouvait pas faire plus. Là, on est passé, je pars à l'administration et équipe scientifique, d'une 15aine à une 50aine de personnes, qui nous permettent de proposer une offre au public bien plus importante.
Objectif, de 700 à 800 000 visiteurs par an, deux fois plus qu'à la fermeture en 2009. D'autant que ce musée public est désormais censé financer lui-même les 2/3 de son budget. C'est le contrat conclu avec l'État au lancement du chantier et ce sera le défi de son nouveau patron, Laurent Lebon.
On rêverait, dans un monde idéal, d'avoir 100% de subvention, de faire l'entrée gratuite. Mais en tout cas, aujourd'hui, la réalité économique fait qu'évidemment, on demande à toute institution, et notamment culturelle, d'essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on appelle les ressources propres et les subventions. Si vous allez au bout de la rue, au centre Pompidou, ils ont aussi des ressources propres à glaner au quotidien, constituer des recettes de billetterie, du mécénat, de la privatisation, des recettes des concessions, libraires, restaurants. Tous les jours, il y a des cocktails, des fêtes, des événements. Pareil au Louvre, pareil au musée d'Orsay. C'est absolument pas une spécificité du musée national Picasso, c'est une spécificité de toutes les institutions culturelles aujourd'hui.
Et nul doute qu'il y aura du monde. On croisait des touristes déçus ces derniers jours devant les portes encore closes. Patience, si la réouverture tant attendue du musée Picasso a été fixée au 25 octobre, ce n'est pas un hasard. Cet immense artiste du XXe siècle aurait eu alors 133 ans s'il avait été immortel. Picasso, la polémique se referme, le musée s'ouvre. Un grand reportage de Sarah Tisser, réalisation Marc Minatel.
Sarah Tisser, bonjour.
Bonjour.
Vous en avez encore plein les yeux. Vous le disiez, la collection du musée Picasso, c'est quelques 5000 œuvres. Mais j'imagine que tout ne peut pas être exposé.
Alors non, bien sûr, le musée même rénové et agrandi reste une demeure du XVIIe siècle, donc un espace restreint, et il a fallu faire un choix. L'exposition inaugurale, c'est quelques 450 œuvres, toutes les époques et tous les matériaux utilisés par Pablo Picasso, peinture, dessin, sculpture, construction, collage, un accrochage qui sera modifié l'été prochain, avant les 30 ans du musée fin 2015, et certaines œuvres n'attendront peut-être même pas jusque-là avant de regagner les réserves. Les œuvres les plus fragiles doivent tourner régulièrement, se reposer quelques années après quelques mois d'exposition. C'est le cas par exemple de cet immense collage de papier de 1938, Les femmes à leur toilette, qui a dû être restauré. Donc il y aura un roulement.
Alors c'est donc Anne Baldassari qui signe l'exposition inaugurale. Elle pourtant qui avait été évincée de la direction du musée, c'était il y a quelques mois, comment l'expliquer ?
Alors c'est l'accord qui a été trouvé pour mettre fin justement à la polémique. Vous imaginez, au printemps dernier, juste avant la réouverture tant attendue de ce musée, sa patronne qui a tout pensé, organisé, est limogée dans un climat social tendu. Évidemment, elle le vit très mal, un successeur est nommé, Laurent Lebon, mais en même temps Anne Baldassari, grande spécialiste de Picasso depuis 20 ans, veut aller jusqu'au bout. Cela arrange aussi son successeur et il faudra tout de même 3 mois d'efforts diplomatiques pour qu'un accord soit signé. Accord qui stipule donc qu'Anne Baldassari se chargera de l'accrochage inaugural. C'est elle aussi qui doit faire le catalogue raisonné de toutes les œuvres que possède le musée. Voilà, au moins 2 ou 3 ans. Ensuite, cette conservatrice qui a consacré 20 ans de sa vie à Picasso dit n'avoir aucun problème à envisager autre chose. D'ailleurs, avant Picasso, c'est à Matisse qu'elle consacrait son temps.
Donnez-moi un musée, je vous le remplirai. Voilà ce que disait Picasso. Mais il en aura finalement rempli plusieurs.
Barcelone, Antibes, oui, vous l'entendiez dans le reportage. Et puis Paris, où c'est la collection publique la plus complète au monde. En fait, c'était un ogre de la peinture, Picasso. Il commence très tôt. Pablo Picasso a 14 ans quand son père, peintre, restaurateur d'œuvres d'art et enseignant à l'école des beaux-arts de la Corogne dans le nord-ouest de l'Espagne, lui confie un premier modèle qui deviendra la fillette aux pieds nus. Et à sa mort, en 73, il laisse près de 70 000 œuvres dans ses différents ateliers. D'après Françoise Gillot, une de ses compagnes, Picasso disait ceci: « Je peins comme d'autres écrivent leur autobiographie. Mes toiles, finies ou non, sont comme les pages de mon journal. J'ai l'impression que le temps passe de plus en plus rapidement, disait-il encore. Je suis comme un fleuve qui continue à couler, roulant avec lui les arbres déracinés par le courant, les chiens crevés, les déchets de toutes sortes et les miasmes qui prolifèrent. J'entraîne tout cela et je continue. »
Ce sera le mot de la fin, faute de continuer. Grand reportage à réécouter, bien sûr, sur RFI.fr. Et en cette espèce, à revoir. Sarah Tisser, merci beaucoup. Bonne journée.